Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson qui nous parlera ce soir de la droite vers un Paris perdu au régional, nous dira-t-il. Et justement dans le Club des Idées, grand débat ce soir à 19h20 sur le vrai pouvoir de nos régions. À quoi servent-elles vraiment? Transport du quotidien, formation, lycée, depuis 5 ans nos régions ont fusionné, pour quels résultats? Qu'en pensent les Français? Sont-ils toujours autant attachés aux régions d'antan et à cette idée locale? On en parlera avec nos invités. D'abord le journal avec Christophe Lamar. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Que se passe-t-il vraiment dans cette centrale nucléaire du sud de la Chine? Une fuite affecte l'un des réacteurs EPR construits et exploités par EDF. Les autorités chinoises restent muettes.
Le sommet de l'OTAN, le premier de l'ère Joe Biden, l'occasion pour le président américain de demander à l'Alliance de resserrer les rangs face à la Chine et à la Russie.
L'épidémie de Covid continue de reculer en France. Le taux d'incidence passe sous les 50 du jamais vu depuis près d'un an.
Le procès de l'assassinat de Julie Douib aux assises de Haute-Corse. Le témoignage des proches de la victime accable son ex.
Le marché immobilier dopé au taux bas, l'emprunter n'a jamais coûté aussi peu cher aux Français. Les Français se ruent chez leurs banquiers qui pourraient se montrer bien moins généreux dès cet été. Et puis l'Euro de football, cette fois ils peuvent jouer. Espagnols et Suédois s'affrontent ce soir malgré le Covid.
La météo avec Anissa Dadi, le retour des orages en montagne, attention.
Oui, sur les reliefs uniquement, hein. Effectivement dans le sud, sur la Corse, les massifs centrales, les Pyrénées, les Alpes du Sud, partout ailleurs c'est encore du grand et très beau soleil avec des températures stationnaires. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Que se passe-t-il donc dans cette centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine? C'est là-bas que le premier EPR est entré en service, c'était il y a 2 ans. Et selon CNN, le réacteur a connu une fuite radioactive. Information confirmée en partie par EDF. Maud Descamps, on en sait ce soir un petit peu plus sur l'origine de cet incident.
En effet, EDF s'est exprimé en début d'après-midi. Il apparaît que certaines gaines dans lesquelles se trouve le combustible du réacteur, c'est-à-dire les pastilles d'uranium, ne seraient pas étanches. Du gaz radioactif s'est donc échappé dans un circuit du réacteur. Alors il ne s'agit pas d'une fuite vers l'extérieur, puisque le circuit dans lequel se trouve ce gaz est fermé. Néanmoins, l'exploitant de la centrale a procédé à des rejets dans l'atmosphère pour réduire la concentration de ce gaz. Des rejets qui, selon EDF, respectent les seuils autorisés par l'autorité de sûreté nucléaire chinoise. Mais ces seuils auraient été relevés ces derniers mois pour éviter justement de devoir arrêter le réacteur. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que ces tubes de combustible ne sont pas uniquement utilisés à Taishan, mais aussi dans les centrales françaises, des gaines qui sont fabriquées ici en France, à Romans-sur-Isère, par la filiale d'EDF Framatome. EDF qui doit donc maintenant procéder à d'autres analyses de données pour savoir s'il faut arrêter le réacteur de Taishan et procéder à de plus amples contrôles ici en France.
Merci Maud Descamps.
À Bruxelles, le sommet de l'OTAN a permis un rapprochement ou plutôt un apaisement entre Paris et Istanbul après plusieurs mois d'escalade verbale. Le président Macron et son homologue turc Erdogan se sont vus juste avant le sommet et sont parvenus, semble-t-il, à aplanir quelques différends.
Côté Covid, on est passé sous les 4000 nouveaux cas de contamination par jour sur la dernière semaine. Autre indicateur important, Victor Dolande, le taux d'incidence, on est passé sous les 50, c'est-à-dire sous le seuil d'alerte.
Oui, et c'est une grande première depuis août 2020. Il y a actuellement 43 cas de coronavirus pour 100 000 habitants sur une semaine. Le taux de positivité chute également à 1,5% du jamais vu là aussi depuis le 2 août de l'année dernière. Automatiquement, les hospitalisations baissent. Moins de 12 500 patients Covid sont actuellement soignés dans les hôpitaux de tout le pays. Et on devrait bientôt repasser sous la barre des 2 000 patients Covid en soins intensifs. Donc tous les chiffres sont au vert. Et selon les projections des épidémiologistes, cette tendance à la baisse devrait se maintenir dans les prochaines semaines. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la vaccination progresse de jour en jour. Parce qu'ensuite, la saison actuelle est moins propice au développement du coronavirus. Et aussi parce que le variant indien est pour le moment bien contenu. Malgré quelques alertes dans le sud-ouest et dans le Grand Est, pour le moment, les autorités sanitaires remontent particulièrement bien les cas contacts et arrivent à circonscrire les foyers de contamination.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1. À partir de demain, un rappel, les 12-17 ans pourront se faire vacciner. Il est déjà possible de réserver un créneau dès ce soir. Et parmi les conditions, il faut bien sûr l'autorisation parentale et la présence de l'un des deux parents le jour de la vaccination.
Le procès à présent de Bruno Garcia devant les assises de la Haute-Corse, accusé du meurtre de Julie Douib.
L'accusé continue de nier la préméditation dans l'assassinat de son ex-compagne, attitude qui renforce considérablement la douleur de la famille de Julie Douib. Marion Dubreuil.
Oui, c'est avec des sanglots dans la voix que Violette, la mère de Julie, raconte la première fois qu'elle a rencontré Bruno en 2006. Un jeune homme agréable, serviable, c'était le prince charmant, jusqu'au jour où Julie se confie 12 ans plus tard. Elle me dit « Maman, je suis victime de violence. Tout ce que je fais, c'est mal. J'ai pas de cerveau, il me rabaisse constamment, il me frappe. » Elle ne nous a pas tout dit, mais elle était son otage. Bruno a volé son identité. Violette s'effondre au fil de sa déposition. Jordan, son fils, lui apporte une chaise. Elle reprend son souffle. Elle veut aller au bout, malgré tout, pour les deux fils de Julie, dont elle a aujourd'hui la garde provisoire avec son mari. Avant qu'on parte, ils étaient très inquiets, explique-t-elle. Ils avaient peur que je n'arrive pas à vous parler. Le plus jeune, il m'a dit « Mamie, si t'arrives pas à parler, papa, il va sortir, il va nous récupérer. » Avant de témoigner, Jordan marque une pause. Il fixe le box et dit « Il a tué ma grande sœur, mon repère. Aujourd'hui, je suis sous médicaments et je n'arrive pas à consoler mes filles. » Quand Lucien Douib prend la parole en dernier, c'est pour parler de ses petits-fils qui se reconstruisent. Ça fait 27 mois que ce monsieur n'a pas demandé des nouvelles de ses enfants. Son seul but, c'est de nous les enlever.
Marion Dubreuil aux assises de la Haute-Corse.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h07. La pierre est en pleine forme. On parle bien sûr d'immobilier.
Le marché ne connaît pas la crise avec des taux très bas. On frôle les 1%. Les Français empruntent de plus en plus, mais une menace plane. L'accès au crédit pourrait être plus compliqué dès cet été, Carole Ferry.
Effectivement, les crédits immobiliers sont en hausse de 5,3% en avril par rapport à la même période l'an dernier. Il faut dire que les taux ont à nouveau atteint un niveau historiquement bas. Vous pouvez emprunter aujourd'hui à 1,07% sur 20 ans. Et les Français en profitent, avec toutefois une nouvelle répartition de cette dynamique à travers le territoire, selon Maëlle Barnier, porte-parole de meilleurtaux.com.
En 2019, on avait un marché extrêmement dynamique et tendu dans les très grandes villes. Et puis après, vous aviez un peu le reste du monde. Il y avait des transactions, mais ce n'était pas une grosse, grosse dynamique. Aujourd'hui, vous avez des bouleversements qui font que vous avez des villes moyennes, notamment proches de très grandes villes. Donc ça va être Angers, Le Mans, vous avez Reims, vous avez des villes autour de Lyon qui récupèrent des acheteurs et avec évidemment des surfaces bien plus importantes et des prix moins élevés encore aujourd'hui.
Une réunion cruciale aura lieu demain à Bercy concernant les conditions d'accès au crédit. Les banques sont incitées depuis cette année à ne pas dépasser 35% de taux d'endettement avec des emprunts sur 25 ans maximum, 27 dans le neuf. Des recommandations qui pourraient devenir obligatoires d'ici cet été. Le gouverneur de la Banque de France estime toutefois que l'incitation est aujourd'hui suffisante.
Carole Ferry du service Éco d'Europe 1. Alors pendant ce temps-là, le Liban continue de s'enfoncer dans la crise. Le pays est au bord du précipice.
Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les Libanais, qui n'ont toujours pas de gouvernement constitué, traversent l'une des pires crises économiques de l'histoire, selon la Banque mondiale. La livre libanaise s'est effondrée de près de 90% par rapport au dollar. L'inflation atteint désormais les 140%. La corruption et l'inertie des responsables politiques accélèrent l'effondrement de ce pays surnommé autrefois la Suisse du Moyen-Orient.
L'Euro de football à présent, avec une belle affiche ce soir, l'Espagne et la Suède.
Belle affiche, oui, et on va dire enfin, parce que le match a été un temps menacé après l'apparition de cas de Covid. Mais là, ce soir, c'est sûr, les Espagnols et les Suédois vont pouvoir jouer au foot, Simon Rubin.
Et oui, puisque dans chaque équipe, deux joueurs ont dû quitter le groupe à cause du virus, deux contaminations de chaque côté et des réactions très diverses. Alors du côté de la Suède, on n'a pas franchement changé les protocoles sanitaires, on a continué la préparation presque comme si de rien n'était. Alors que les Espagnols, eux, se sont d'abord tous fait vacciner. Le gouvernement a validé une vaccination prioritaire en urgence pour toute l'équipe, ce qui n'a pas manqué, vous l'imaginez, de créer la polémique en Espagne. Tout ça a d'ailleurs un peu perturbé le groupe, a concédé Luis Enrique, le sélectionneur. Il nous reste donc 24 joueurs. Le plan a un petit peu changé, reconnaît-il. Bien sûr, nous allons jouer sans notre capitaine Sergio Busquets. Mais il faut qu'on s'adapte, personne ne se plaint et ce ne sera pas une excuse. On a une bonne équipe et on a surtout hâte que ça commence. Voilà pour le discours. Alors, on verra si le Covid a eu un effet sur le mental des équipes. Enfin, un dernier mot quand même sur le premier joueur français qui va débuter l'Euro ce soir. C'est Emeric Laporte, qui a été naturalisé espagnol tout récemment, natif d'Agen, qui a vécu et joué en Espagne de ses 16 à ses 24 ans. Il était boudé par Didier Deschamps. Eh bien, le voilà, qui est donc passé à l'ennemi, en tout cas chez nos voisins espagnols.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, Espagne-Suède ce soir à 21h. En attendant, la République tchèque a battu, ça c'est le groupe D, a battu l'Écosse Écosse 2-0. Je vous conseille le but de Patrick Schick, lob de 50 mètres. Pour l'instant, c'est forcément le but de ce début d'Euro. Et en ce moment, dans le groupe E, Pologne-Slovaquie, un partout entre les Polonais et les Slovaques.
Bien, merci mon cher Christophe. Un lob de 50 mètres, vous savez faire ça vous Anissa ?
Bien sûr, tout bien. À fait, je fais ça tous les week-ends.
La météo avec vous évidemment, la vague de chaleur se poursuit encore demain.
Oui, nous aurons exactement les mêmes conditions de météo demain comme aujourd'hui, c'est la journée qui se répète. Les températures sont les mêmes, hein, c'est stationnaire, 11 à 25 degrés demain matin. Nous aurons 11 degrés à Auxerre, c'est là qu'il fera le plus frais. 14 à Brest et Besançon, 15 degrés à Strasbourg, 17 à Paris et Ajaccio déjà demain matin, 19 à Marseille, 22 à Nîmes et 25 à Perpignan. Dans l'après-midi, c'est bien plus respirable à l'ouest, avec 20 degrés à Cherbourg, 21 au Havre, 24 à Caen et Biarritz. Ailleurs, il va faire chaud encore demain, 28 à Lille, 29 à Vannes et Bastia, 30 degrés à Belfort, 31 à Paris et Clermont-Ferrand, 32 à Strasbourg, 33 à Grenoble et Niort, 34 pour Bordeaux et Lyon et 36 la maximale à Nîmes. Dans le ciel, rien à signaler, un ciel bleu sur l'ensemble du pays. Attention tout de même, en montagne, des orages éclatent sur les reliefs corses, les Alpes du Sud, le Massif central et les Pyrénées. On va vous tenir au courant de l'évolution de la situation parce que ce beau temps et ces températures fortes vont créer des orages qui devraient arriver sur l'ensemble du pays jeudi.
Bien, on compte sur vous effectivement. Merci Anissa. À demain. 19h12, vous restez avec nous évidemment dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées sur le vrai pouvoir ce soir de nos régions. On en parlera, c'est important. D'abord, à propos de régional, la carte blanche signée ce soir de l'écrivain Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors ce dimanche se tient donc le premier tour des élections régionales et vous vouliez en profiter pour évoquer les Républicains. Et vous vous demandez si nous n'aurions pas par hasard la droite la plus bête du monde.
Bah franchement, Julien, la question mérite d'être posée. Un sondage après sondage, on se rend compte que la France penche très nettement à droite. Par ailleurs, les thématiques traditionnelles de ce camp, la sécurité, l'autorité de l'État, la valeur travail, on le vend en poupe. Et pourtant, les Républicains se préparent à de nouvelles déconvenues électorales. S'agissant des régionales, justement, ils sont menacés dans un de leurs fiefs, la région PACA, dont la perte, d'après Renaud Muselier, peut entraîner rien moins que la mort de la droite. Et pour ce qui est de la présidentielle, là, c'est carrément le grand n'importe quoi. En réalité, la droite, minée par ses division est parvenue à un stade avancé de décomposition.
Et en même temps, ça n'est pas tout à fait nouveau, elle a toujours été divisée. L'historien René Raymond le disait déjà dans les années 50.
Oui, vous avez raison, selon lui, il n'y avait pas en France une seule droite mais trois, hein, issues des conflits de la Révolution française. Légitimiste, c'est-à-dire conservatrice, orléaniste, donc libérale, et bonapartiste, en gros autoritaire. Sauf qu'elle parvenait tant bien que mal à cohabiter, à se retrouver sur l'essentiel et surtout à se rassembler pour gagner l'élection reine, la présidentielle. Mais aujourd'hui, la droite n'est plus coupée qu'en deux, mais ces deux moitiés semblent désormais irréconciliables. D'un côté, une droite centriste mais phagocytée par Macron. Oui. De l'autre, une droite réac mais attirée par Le Pen.
Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
D'abord, la droite n'a pas su reconnaître que Macron menait grosso modo la politique dont elle a toujours rêvé. Hein. Réforme de l'ISF, réforme du droit du travail, tentative de suppression des régimes spéciaux de retraite, loi sécuritaire, de surcroît en nommant les siens au plus haut poste du pouvoir. Hein. Je pense à Édouard Philippe, Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et tous ceux que j'oublie. Son opposition pavlovienne l'a rendue illisible et ridicule, elle y a perdu sa crédibilité. Et de l'autre côté, elle n'a pas su maintenir un cordon sanitaire avec l'extrême droite, faisant voler en éclats le Front républicain et flirtant dangereusement avec les thématiques du FN, comme on l'a encore vu avec les déclarations récentes de Guillaume Pelletier ou d'Éric Ciotti. Et là, elle y a perdu sa singularité et surtout son âme.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'incarnation, comme l'on dit, c'est-à-dire le manque d'un chef.
Oui, à l'évidence, aucun de ceux qui parlent aujourd'hui en son nom ne possède le moindre charisme. Avant, la droite, souvenez-vous, c'était Giscard, Chirac, Juppé, Sarkozy. Aujourd'hui, c'est Jacob, Pelletier, Bertrand, Morano. La chute aura été vertigineuse. Si vous ajoutez à ce cruel manque de leadership une paresse intellectuelle terrible, l'absence criante d'idées neuves, vous obtenez un cocktail tragique. Par ailleurs, les politiques se font tailler les croupières par les idéologues médiatiques. Pour beaucoup, en fait, aujourd'hui, la vraie droite, c'est Zemmour, Onfray, De Villiers et Buisson. Alors ça dépote, mais ça fait sans doute pas gagner une présidentielle.
Alors justement, la présidentielle, elle s'annonce mal pour la droite, visiblement.
Ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà un trop-plein de candidats, déclarés ou putatifs. Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, sans compter ceux qui sont en marge mais piquent des voix, comme Dupont-Aignan. Pour les départager, l'inénarrable Christian Jacob propose de s'en remettre au sondage, ce qui est tout de même le summum du naufrage idéologique, quand d'autres réclament une primaire, mais c'est autant une machine à gifle qu'une machine à perdre. Ainsi, après le long, lent suicide de la gauche, se profile le sabordage ultime de la droite. Alors pour de bon, seuls resteront debout au milieu des décombres Macron et Le Pen.
Merci pour votre carte blanche, cher Philippe Besson. Tout le monde en prend un peu pour son grade, comme à chaque fois. C'est ça qu'on aime avec vous. Merci Philippe.
Europe 1, Julien Bugier.
19h16, restez avec nous dans quelques secondes. Le débat du Club des idées, on parlera du vrai pouvoir de nos régions, justement. Quel est le pouvoir, les compétences de nos régions sur notre quotidien? On en parle avec nos invités, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des idées, grand débat donc, à quelques jours du premier tour des régionales, sur le vrai rôle de nos régions et de leurs présidents sur notre quotidien, transport, école, formation professionnelle. Au-delà des rapports de force traditionnels entre les différents partis politiques, quel est le vrai rôle de nos régions? Quelles sont leurs compétences? Quels sont leurs rôles? La grande réforme aussi qui a vu naître il y a 5 ans les régions fusionnées est-elle un succès? On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Jean-Paul Huchon.
Bonsoir.
Vous êtes ancien président de la région Île-de-France, président honoraire aujourd'hui de la région Île-de-France.
À l'initiative de Valérie Pécresse, c'est formidable.
On en parle également avec Roland Cayrol. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de recherche associé au Centre de recherche politique de Sciences Po et directeur conseil de Région Magazine. On en parle également avec Romain Pasquier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Rennes, auteur de l'ouvrage « Le pouvoir régional, mobilisation, décentralisation et gouvernance en France », publié chez Presse de Sciences Po en 2012. Alors, question pour vous d'abord, Jean-Paul Huchon, à quoi ça sert une région?
Ça dépend de la conception qu'on se fait de l'organisation institutionnelle et politique du pays. Tant qu'on restera,
vous avez 30 secondes, c'est plus simple.
Tant qu'on restera sous cette forme totalement jacobine, etc., ça sera difficile pour les régions. Sinon, c'est le lieu, par excellence, de la vie quotidienne et de l'amélioration de la vie quotidienne.
Mais est-ce qu'elles ont un vrai pouvoir, ces régions? Je rappelle, selon le nouveau découpage, il y a 12 régions métropolitaines, 2 régions d'outre-mer, Guadeloupe-Réunion, et 3 collectivités territoriales qu'on appelle uniques, la Corse, la Guyane et la Martinique. Est-ce que quand on est président de région, comme vous l'avez été, aujourd'hui peut-être plus encore, est-ce qu'on a un vrai pouvoir sur la vie quotidienne des gens?
Oui, sur des sujets absolument majeurs, les transports, la formation, l'éducation, l'aménagement du territoire, et bientôt, j'espère, le développement économique, puisque les nouvelles compétences des régions sont en train de se mettre en place. Mais ça reste, au plan politique, un peu des nains, par rapport au pouvoir d'État. Et il faut se souvenir que les départements ont bien survécu à toute cette période de remue-ménage autour des institutions et des collectivités locales, et qu'ils ont montré leur existence dans la proximité. Donc les régions, elles sont à la fois dans la stratégie économique, sociale, et aussi elles sont dans la proximité quand même, parce que quand vous avez... comme en Île-de-France, que j'avais 470 lycées.
Oui.
Vous traitez le cas d'un million et quelques d'élèves qui passent comme l'essentiel de leur journée. Donc, c'est capital. Quant au transport...
Et puis, on va rentrer dans le détail, mais les transports, vous gérez les TER, les régions gèrent les TER.
Oui.
C'est important pour la vie et le transport des gens au quotidien. Vous parliez des lycées. C'est vrai que ce sont les régions qui gèrent et qui construisent les lycées. Oui. C'est important,
mais
ça aussi.
Elles ne sont pas en charge de l'enseignement.
C'est là le paradoxe.
C'est un des paradoxes, parce qu'elles sont par contre en charge de tout ce qui est la gestion, les cantines, les jardins, etc. Tout ça a été collé en quelque sorte en responsabilité aux régions. Alors, à l'époque, j'ai vécu ça.
On va rentrer dans le détail de tout ça pour être tout à fait concret pour les gens qui nous écoutent et qui vont voter dimanche et ne savent peut-être pas quelles sont les compétences précises de ces régions. Donc on l'a dit, les lycées, les TER, le transport scolaire, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, ça recouvre plein de choses, et des missions aussi autour de l'environnement et du climat. Peut-être de façon générale d'abord, Roland Cayrol, est-ce que les régions sont bien identifiées aujourd'hui par les Français?
Alors disons qu'elles le sont de plus en plus. Au fond, d'année en année, de sondage en sondage, on s'aperçoit que les gens connaissent mieux d'abord le nom de leur région, à peu près les départements qui la composent, un peu moins ceux qui la dirigent.
Oui.
Mais, et ils disent souvent sans connaître beaucoup plus que ça, sans pouvoir énumérer les compétences, comme vous venez de le faire, ils se disent de plus en plus attachés à la région. Les Français sont moins attachés à la région qu'ils ne sont au pays, à la France, oui. Ni même qu'ils ne sont au département et surtout à leur commune, mais ça monte.
Oui.
Tous les ans, on aime un peu plus
malgré
sa
cette
région.
Fusion et ces grandes régions, parce qu'on avait dit ah, ça va être des grands trucs, on va mélanger des gens de cultures différentes.
Au contraire, le fait qu'on les a amenés à 12 ou 13 avec la Corse, ça simplifie un petit peu les choses et ça a plutôt permis à l'opinion publique de se déterminer plus facilement par rapport à la région. Mais regardez, quand on a fait dans Région Magazine un sondage sur la notoriété et l'image des différentes de tous les présidents de région.
Oui.
Et on s'est aperçu que ceux qui étaient dans leur propre région le plus connu, c'était ceux qui avaient par ailleurs un rôle national.
Oui.
Xavier Bertrand, Madame Pécresse, Monsieur Morin.
Oui.
Ils sont plus connus des habitants,
donc
non
ça,
pas
ça,
pour leur rôle de président de conseil régional, mais pour leur rôle national.
Oui, ça rejoint ce qu'on perçoit un peu en tant qu'observateur et ce que nous montrent les sondages. C'est-à-dire qu'aux élections régionales, on vote d'abord pour un parti, pour un leader, avant de voter vraiment pour un programme.
C'est-à-dire qu'on vote, là, il va y avoir probablement, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion, probablement d'abord une prime au sortant.
Oui.
Vous savez, faire une politique très différente des autres dans une région, quand on doit s'occuper des transports, des cantines, etc., bah, il faut être vraiment très malin pour trouver un moyen de faire une vraie politique qui soit pleinement de gauche ou de droite ou écolo.
Oui.
Donc on fait des compromis, on fait des politiques qui se ressemblent franchement d'une région à l'autre, qui sont d'ailleurs souvent votées par les différents partis politiques, souvent à l'unanimité dans certaines régions. Donc voilà, c'est très difficile. Donc quand vous êtes sortant, et que les gens ont le sentiment que la région a fait le boulot, là en plus ils l'ont souvent fait de façon plus visible à cause de la crise sanitaire, du coup les Français donnent une petite prime aux sortants.
Et puis on
verra qu'il y a d'abord ça, et après il y a les partis.
Il y a une inégalité aussi de budget selon les régions, il y a des régions plus riches que d'autres, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Romain Pasquier, peut-être un commentaire général d'abord sur le vrai pouvoir des régions.
Bon, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Effectivement, nos régions sont comme nos collectivités territoriales de manière générale en France. Elles ont un pouvoir réglementaire extrêmement faible et elles ont des budgets qui sont là aussi relativement limités si on les compare à leurs homologues européennes.
Oui.
Donc elles ont vu leur pouvoir grandir quand même depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des transferts de compétences, mais disons que elles n'ont pas les pouvoirs de leur taille, en tout cas pour les régions fusionnées.
Oui. L'idée, ce serait quoi ? Il y a Valérie Pécresse qui dit par exemple qu'il faudrait que la sécurité, ça soit du domaine de la région. C'est intelligent, ça, comme proposition ?
Écoutez, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des propositions, tout simplement parce que les régions n'ont pas d'expérience en matière de sécurité.
Ouais.
En revanche, elles ont des expériences en matière de formation, d'emploi. Si déjà il y avait une seule grosse compétence, insertion, emploi, éducation confiée aux régions, on remettrait de la coordination dans l'action publique.
Ouais.
Vous voyez, je pense qu'il faut plutôt partir de ce que l'on fait, plutôt que de demander autre chose qui fragmenterait encore.
Mais il y a un petit paradoxe là-dessus, Jean Peluchon, c'est qu'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, mais les régions ont le domaine de compétence de la sécurité dans les transports, mais pas dans la sécurité autour des transports. Est-ce que si on voulait être cohérent, il ne faudrait pas que la région s'occupe de la sécurité, point barre ?
La vieille thèse de la gauche comme de la droite, d'ailleurs, c'est que c'est l'État qui s'occupe de la sécurité au sens large.
Oui.
Il est inconcevable que, par exemple, dans les transports, il n'y ait pas une action financière et d'appui des régions au travail que fait la police, ou pour inventer même des polices comme on inventait les polices municipales.
Oui.
Moi, j'ai été maire, j'ai fait une police municipale, et il fallait la faire, parce qu'il n'y avait plus de moyens du côté de l'État. Ce que je crois, c'est que les régions sont en mesure de contractualiser avec l'État un appui. Et par exemple, on peut tout à fait imaginer que les régions prennent en charge l'équipement, voitures, matériel, etc. De la police, ça ne me gêne pas. Par contre, la police dite républicaine, c'est-à-dire ce qui reste de l'État régalien, faut le laisser à l'État.
Bien, on marque une première pause, 19h28, et on se retrouve avec nos invités. Tiens, on fera un peu d'histoire aussi, pour revenir à l'antériorité de ce qu'était une région. On va remonter au Moyen-Âge. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h32, on continue dans le Club des idées d'Europe Soir à parler à quelques jours du premier tour des régionales, du vrai rôle, du vrai pouvoir de nos régions et de leurs présidents qui seront élus à l'issue de ces élections régionales. Alors, il y a eu aussi cette fusion des régions il y a maintenant près de 5 ans, dont le bilan est mitigé, on va en parler. La réforme n'a pas généré les économies d'échelle qui avaient été promis. La Cour des comptes a même dit qu'il y avait eu des surcoûts dans un premier temps. Et c'est vrai que sur un plan d'attachement culturel aussi de la part des habitants, ça avait suscité pas mal de débats, à l'image de cette chanson « Alsaciné » qui avait été chantée par un collectif d'artistes alsaciens pour dénoncer la fusion de l'Alsace, ils n'étaient pas contents du tout, avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Voilà, ça fait sourire nos invités. Roland Quirol, vous êtes politologue, directeur de recherche associé au Centre de recherche politique de Sciences Po. C'est vrai que ça avait suscité pas mal de méfiance, d'inquiétude, de marier des populations avec des attachements culturels et des
races. Et vous savez, ça continue.
Et ça continue.
Ça continue. Dans la région dont parle la chanson, il y a encore, on s'aperçoit, beaucoup d'Alsaciens qui, le fait d'être mariés avec les Lorrains, et j'allais dire, et a fortiori avec Champagne-Ardenne, cette histoire de Grand Est, ça ne leur donne pas cette identité pour laquelle ils avaient une empathie très profonde, qui était l'Alsace. Quoi. Ouais. Et donc, c'est toujours pas réglé.
Bien. Vous trouvez que c'était une bonne réforme, cette réforme de la fusion des régions, Jean-Paul Duchamp ?
Au départ, la réforme est purement politique. Il y a un grand échec du gouvernement. Val se dit, il faut que je fasse quelque chose de tout à fait nouveau et intéressant. Donc, on va lancer ça. On fait ça sur des coins de table. Ça a été fait quand même, franchement, d'une manière extrêmement amateur. Hein.
Ah oui ?
Ah oui, et même avec des contraintes politiques idiotes, la Bretagne, les Pays de Loire, etc. Mais bon...
C'est le président de la République lui-même, à la fin, sur la carte,
il a fait
qui a choisi les derniers...
Il a fait à la main,
je pose la question, parce que ça pose une question, Jean-Paul Duchamp, fondamentale. Les régions suscitent un débat depuis toujours entre les partisans d'un découpage respectueux des identités locales, ce qui était plutôt le cas bien précédemment, sûr. Et ceux qui veulent au contraire renforcer l'efficacité de la gestion administrative. C'est ce qui avait été vendu pour promouvoir cette réforme.
Oui, mais honnêtement, si vous prenez la Grande-Aquitaine, dirigée par un ami qui va sans doute repasser, là, bon, la Grande-Aquitaine, mettre le Limousin, la Charente, Bordeaux, tout ça n'est quand même pas d'un très grand sérieux. Oui. Mais il est de fait que maintenant, ces fusions se sont passées quand même sans drame.
Oui.
Et que il y a une identité qui est en train de se construire. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une identité régionale, par exemple, la Picardie avait une vraie identité, etc. Et d'un seul coup, on les a félicités pour repartir à zéro.
Oui.
Mais bon, là-dessus, il faut reconnaître que...
La Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, c'est de lui dont vous parlez.
Oui.
Alors, il y a aussi l'Occitanie, par exemple. Alors là, c'est une énorme région, 6 millions d'habitants, 13 départements qui vont de l'Aveyron... aux Hautes-Pyrénées, qui a vu fusionner le Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 7000 fonctionnaires ou agents avec des rivalités fortes, hein, comme entre Toulouse et Montpellier. Est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans, Roland Quirol ? Est-ce qu'on
s'y retrouve dans ce grand truc administratif ? Il y avait probablement quelque chose de raisonnable à vouloir faire de plus grandes régions, qui a un véritable poids dans le pays, notamment un poids économique, puisque l'idée, c'est quand même... Dans la loi de 64 qui crée les régions, on dit qu'elles vont avoir en charge le développement économique. Elles n'ont toujours pas vraiment toutes les clés du développement économique. Et l'une des clés du développement, c'est quand même la taille.
Oui.
Et de ce point de vue, ce n'était pas complètement absurde. Mais c'est vrai que quand on veut faire de la taille, on gomme des disparités, des sentiments d'appartenance.
Attention, parce que la taille ne veut pas tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la Catalogne, 3 fois moins que la région parisienne, etc. Beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids.
C'est une région riche.
Donc, comme le disait justement Alain Rousset et d'autres présidents dont j'étais, la question n'est pas dans l'étendue du territoire, les fusions plus ou moins acceptées, elle est dans les pouvoirs que l'on donne vraiment aux régions. Et ça, aujourd'hui, on ne leur a pas donné assez. Du plan au plan économique. Mais elles ont compris, les régions. Elles se sont battues sur la pandémie, etc., pour montrer qu'on avait besoin d'elles. Et quand on a besoin d'elles, elle était obligée de concéder un petit peu.
Alors, je vous pose la question sur les identités fortes culturelles. Et j'ai pris volontairement cet exemple de l'Occitanie parce que, pour promouvoir cette fusion des régions, il avait été diffusé un message par le rectorat de Toulouse. C'est la région Midi-Pyrénées et le rectorat de Toulouse qui ont choisi un langage de jeunes. Franchement, ça fait sourire. Pour expliquer la fusion de ces régions aux collégiens, lycéens et aux apprentis dans une vidéo dite pédagogique. Écoutez ce que ça donne.
Salut les gens! Alors comme ça y est. Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées s'unissent pour en former une seule dès 2016. Mais ça déchire grave les poteaux. Vous ne me reconnaissez pas, sympa. Moi c'est Pierre-Paul Riquet, double P Riquet pour les intimes.
Voilà, ça fait sourire. Alors, le ton est donné parce que Pierre-Paul Riquet, c'est l'homme qui a conçu et réalisé le canal du Midi au XVIIe siècle, rebaptisé double P Riquet, portant une casquette sur la vidéo diffusée sur YouTube et des chaînes en or. Des fois, on se demande si on ne se fout pas de la tronche des jeunes quand on voit ce genre de truc. Mais passons. Romain Pasquier, l'attachement territorial, est-ce qu'on l'a un peu laissé de côté au profit d'une meilleure gestion administrative ?
Ah, on l'a complètement laissé de côté, c'est un fait. Hein. Aucun processus référendaire, par exemple, on aurait pu se servir de la démocratie locale pour essayer de tracer des communautés de vie. On a fait totalement l'inverse, ça a été dit sur un bout de table. Après une grosse défaite politique au municipal, on cherche à donner à la Commission européenne, dans un contexte budgétaire extrêmement dégradé en 2015, que l'on fait des choses pour réformer la France. Mais en fait, il fallait faire autre chose. D'ailleurs, Manuel Valls voulait aussi supprimer les départements en même temps. François Hollande l'avait même annoncé sur BFM. Et donc, comme tout cela n'a pas été possible, il nous reste sur les bras ces grandes régions. D'ailleurs, un livre vient de sortir où on montre bien sur l'Occitanie, par exemple, que la fusion s'est très mal placée, qu'il reste en réalité dans la gestion de l'Occitanie deux entités, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Alors, sur les transports, Jean-Paul Huchon, les régions gèrent les TER et peuvent participer aux nouvelles lignes aussi TGV. Depuis 2017, elles s'occupent aussi des transports scolaires. Alors, j'ai vu que ça représentait entre 10 et 20% de leur budget globalement. C'était pareil pour l'Île-de-France ?
Île-de-France, c'est très particulier parce que vous avez le métro et vous avez le réseau central SNCF, puis vous aurez bientôt le Grand Paris.
Et ces régions ont aussi une incidence sur le prix des billets pour les TER,
bien
me semble-t-il.
Sûr, c'est 60% des transports se font en Île-de-France pure.
Oui, mais sur le prix des transports, c'est important parce que les gens ne le savent pas.
Le prix des transports n'est pas élevé. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout la mesure de Mme Pulvar pour la gratuité des transports. C'est de la démagogie. Ce n'est pas ça que les gens attendent. Les gens attendent de la ponctualité, de la sécurité, du confort et de la rapidité.
Et là-dessus, la région peut investir pour avoir
la région
des résultats.
Investit énormément. Le budget de la région, c'est 5 milliards d'euros. Il y a 2 milliards qui passent dans les transports tous les ans.
2 milliards dans les transports ?
Tous les ans.
C'est énorme. Et pourquoi on a des trains qui arrivent en retard alors ?
Eh bien parce que le réseau a été abandonné par l'État, l'État à tous les niveaux, hein, gauche, droite, etc., pendant très longtemps. Et on a donné la priorité au TGV ou à l'aviation, aux aéroports, etc., mais on n'a jamais voulu s'occuper des transports du quotidien. Oui. Et maintenant, pour rattraper ça, c'est considérable. Une gare, c'est au moins une gare à rénover. C'est au moins 100 millions d'euros. Une gare comme la Saint-Denis, une grosse gare en Île-de-France, 500 millions d'euros.
500 millions d'euros.
Mais comment voulez-vous faire avec ça ? Et donc, il faut prendre du temps. Ça exige des plans, de la continuité, beaucoup de courage politique. Bien. Beaucoup de courage politique, parce qu'il faut essayer de mettre tout le monde d'accord, alors que chacun veut sa gare à sa porte.
Nos régions ont du talent et des moyens, donc on continue d'en parler après la pause. 19h41, à tout de suite avec nos invités.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le Club des Idées suite pour parler de nos belles régions à quelques jours du premier tour des régionales et sur le vrai pouvoir évidemment des présidents ou des présidentes de nos régions sur notre quotidien. Tiens, je voudrais qu'on fasse un petit peu d'histoire, qu'on revienne en arrière, loin en arrière. Elle est longue et vieille cette histoire de nos régions. Alors, on va commencer à la fin de l'Ancien Régime. L'organisation territoriale du Royaume de France est très complexe avec 36 provinces militaires qu'on appelle les gouvernements qui sont de résultat de l'histoire féodale, mais la France est aussi découpée en diocèses, la France est découpée en pays d'État. En 1799, c'est la Révolution, et c'est la Révolution aussi territoriale, puisque sont créés les départements. 83 départements, c'est le décret du 22 décembre 89. Rappelons que c'est aussi pour les révolutionnaires un moyen, Roland Quayrol, de lutter contre les identités régionales. À l'époque, on ne veut pas voir une tête qui dépasse, puisque ça s'oppose au projet d'édification de la nation française. C'est ça l'histoire,
oui,
au début.
Oui, c'est en effet très important, parce que au fond, toute notre histoire, d'abord, l'Ancien Régime, ce sont les régions. Il faut que le pouvoir royal existe contre elle, qu'il impose un pays qui va être la France.
Oui.
Et donc, il y a, dès le départ, une concurrence entre l'État et les régions. Les révolutionnaires, c'est notamment les Jacobins qui sont au pouvoir. Et les Jacobins, on sait combien ils sont attachés à la centralité de l'État et contre toutes ces espèces de
velléités identitaires déjà
qui pourraient menacer la Révolution. Oui. Ça va être encore aggravé par l'Empire, hein, qui est tout à fait centralisé. Et nous avons hérité de cette période de réaction par rapport à l'Ancien Régime qui nous a été dictée par la Révolution et l'Empire. Et nous avons beaucoup de mal à nous en sortir. Les décentralisateurs, dont Jean-Paul et moi sommes deux exemples, je crois que Pasquier aussi, c'est très difficile de faire entendre qu'on est dans un pays, d'une certaine façon, devenu archaïque, tellement l'État s'est imposé et qu'on ne laisse plus parler dans une démocratie les différentes citoyennetés.
Si vous voulez dater vraiment d'un symbole, les Chouans.
Oui.
Les Chouans, on massacre les Chouans, c'est la République qui massacre les Chouans. Et après, malheureusement, la gauche a continué sur ce thème-là. C'est-à-dire que plus vous étiez décentralisateur, plus vous étiez de droite. C'est complètement stupide. Et Mitterrand a réussi à un peu inverser ça avec les lois de décentralisation avec Monroy, parce que Monroy avait compris l'importance des régions.
C'est l'étape suivante, c'est ce que j'allais vous dire. 82, c'est la naissance des régions en tant que collectivité locale.
Oui, mais malheureusement, ça n'a pas été poussé à bout. Hein. Ce qui a été poussé à bout, c'est la fin de la tutelle. Mitterrand, il voulait se débarrasser des préfets qu'il avait d'ailleurs emmerdés un maximum, certains d'entre eux particulièrement. Et donc, ce n'était pas son problème, les régions. Par contre, c'était le problème de Monroy et de Defferre. Et il en est resté quelque chose. Mais jamais les régions n'ont été dotées de la force, des pouvoirs et des moyens des régions allemandes. Or, si aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises intermédiaires, trois fois plus en Allemagne qu'en France, c'est pas un hasard, c'est parce que l'économie est aux mains des régions, elle n'est plus seulement aux mains de l'État.
Vous voulez dire ce maillage de PME qui fait la force de l'Allemagne, on l'aurait eu si on avait décentralisé plus tôt ?
Bien sûr, mais bien sûr, c'est comme ça que ça serait passé.
Romain Pasquier, peut-être un mot là-dessus, la force de notre histoire, de ces départements. D'ailleurs, est-ce que ces départements, ils ont encore un sens aujourd'hui ? Parce qu'on vote aussi pour les départementales dimanche prochain.
Écoutez, oui, ils sont inscrits dans l'histoire, hein, vous l'avez rappelé, 1789, donc ils ont un sens. Après, tout dépend le sens que l'on y met. Ils ont plus grand sens économique, par exemple. Effectivement, c'est beaucoup plus les métropoles et les régions qui, dans les territoires, impulsent les stratégies, financent les dispositifs, etc. Mais sur l'action sociale, sur... voilà, ce vieux référentiel républicain, notamment dans les milieux ruraux, le département garde une vraie réalité. En milieu urbain, c'est déjà beaucoup moins le cas. Oui. Hein, qui connaît son conseiller départemental en plein centre-ville de Lyon ou de Marseille, peu de personnes, à vrai dire.
Roland Quayrol.
Oui, je voulais dire que budgétairement, évidemment, les départements, c'est très important, puisque ça gère le social. Enfin, il ne faut pas s'y tromper. La plupart de ce qui est payé socialement pour les Français, c'est l'État qui le débourse. Et ils se contentent de tenir la caisse, les départements. Oui. Autrement dit, c'est un tour de passe-passe. On fait croire comme ça aux départements qu'ils ont un gros pouvoir. Mmh. Ça permet d'avoir des conseillers départementaux, des présidents de département, des hôtels de département. On fait comme si on était un pouvoir politique important. Oui. Mais ne nous y trompons pas, ça n'est plus vrai.
Bien, il nous reste quelques secondes, Jean-Paul Huchon. Je voudrais profiter de votre présence pour vous demander, où est le Parti Socialiste là-dedans ? Et deux, est-ce que cette vague qu'on annonce, ou cette dynamique en tout cas pour le Rassemblement National, ça vous inquiète ?
Oui, mais c'est juste le fruit de la situation dans laquelle vit le pays depuis plusieurs années. C'est aussi le fruit des énormes erreurs et de la faiblesse du Parti socialiste et de ceux qui ont succédé à Mitterrand, Rocard, etc. On a des dirigeants qui ne sont pas au niveau et on a un projet qui n'est pas au niveau non plus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Parti socialiste? Il va sans doute, on espère, oui, conserver quand même quelques régions, parce que...
Vous voyez quelqu'un émerger aujourd'hui pour prendre la relève? Je vous pose la question parce qu'évidemment, tout le monde pense à Anne Hidalgo. Vous avez...
Moi, j'y pense pas.
Beaucoup côtoyé, mais vous n'y pensez pas.
Pas du tout.
Ce n'est pas la femme de la situation pour relever le Parti Socialiste.
Non, parce que Paris, la province, etc. Et puis parce que... Bon, je pense qu'il faut quand même avoir davantage de... Comment dirais-je, de recul et d'expérience. Voilà, quand vous avez eu comme des dirigeants comme Mitterrand, Rocard, oui, Chirac, oui, etc., on n'est quand même pas dans la même catégorie. Hein.
Bien. Merci. voilà qui est dit. Merci Jean-Paul Huchon, merci Roland Cayrol, merci Romain Pesquier d'avoir participé au Club des Idées sur ce sujet. Pas forcément facile, mais très concret pour vous qui nous écoutez, des régionales. Premier tour donc ce dimanche.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h49, dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. On vous racontera ce soir la grande histoire de la première grève des femmes en 1991. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, les archives d'Europe Soir dans le Club des Idées, le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République,
aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on remonte le temps de 20 ans pour arriver ce 14 juin 91. Ce jour-là a été lancée la première grève des femmes en Suisse. Une grève générale qui s'inscrit dans l'histoire du féminisme en Europe à l'initiative d'un collectif de femmes avec un grand succès.
Oui, car cette grève est le débouché direct d'une immense lassitude et d'une exaspération au sein de la Confédération helvétique. 10 ans plus tôt, le 14 juin 1981, l'égalité homme-femme était pourtant entrée dans la Constitution après une votation populaire. Le texte disait ceci: l'homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Et bien malgré ce texte, 10 ans plus tard, tout ça n'est en fait que de la théorie. Pour les femmes suisses, rien n'a changé. Alors ce 14 juin 1991, une vague fuchsia descend dans la rue. Écoutez ces témoignages recueillis à l'époque par Jean-Pierre Montanet. Il y a d'abord les inégalités à la maison, avec l'émergence d'un concept qu'on n'appelait pas encore la charge mentale.
C'est moi qui sais s'il faut aller chez le médecin, s'il y a un rendez-vous à prendre, s'il faut s'occuper de préparer des bagages, des habits, etc. C'est moi qui supporte beaucoup, même si on partage déjà beaucoup de choses.
Au total, 500 000 de Suissesses débraient ou manifestent. Les infirmières prolongent leur pause café. Les casseroles et les balais sont suspendus aux fenêtres. Le bilan est positif pour Paola, une des grévistes.
Il y a une prise de conscience du problème de la femme dans la société, dans le monde du travail. Il y a vraiment une grande, grande solidarité. Même si ce n'est pas la journée de grève où tout le monde est en grève, où la Suisse s'arrête, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée aujourd'hui, quand même elle marche encore. Et puis maintenant, il faut continuer.
Au cœur de tout également, la question de l'égalité professionnelle et en la matière. 3 ans plus tard, en 1994, en France, Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, fera le constat que faire une loi, eh bien ça ne suffit pas. Le salaire d'une femme était alors inférieur de 30% à celui d'un homme en France.
Il y a maintenant un arsenal juridique qui est complet. Et en principe, tellement complet que non seulement le dispositif existe qui impose l'égalité dans l'embauche, l'égalité, la non-discrimination en ce qui concerne les rémunérations, la promotion et autres. Simplement, les femmes, on les oriente vers seulement une partie des filières professionnelles qui ne sont pas celles qui rémunèrent le mieux. Je crois que ce n'est pas seulement le droit, ce sont les habitudes, les comportements. Ce sont les jeunes femmes elles-mêmes qui se battent et qui d'ailleurs, je dois dire, cette jeune génération, je les trouve assez formidables parce qu'elles affrontent, mais il faut qu'on les aide. Et donc il faut aller plus loin.
Bien. Et ce combat, Jean-Jacques, il continue encore et encore, car les progrès sont lents, trop lents.
Oui, d'ailleurs, si on fait un bond en avant dans le temps jusqu'en 2016, on se rend compte qu'il y a bien eu des progrès. Hein. Mais à ce moment-là, il y a encore 15% de différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. Pour les associations féministes, cela équivaut à 38 jours de travail bénévole pour les femmes. Débrayage donc à 16h34, ce 7 novembre 2016. Chanel Petit était présente au rassemblement Place de la République à Paris.
Pour dire, il y en a marre que quand un homme touche 1000 euros, une femme française ne gagne que 845 euros et moins de postes à responsabilité plus de temps partiel, plus de travail à la maison aussi. Autour de moi, beaucoup de pancartes. Je ne suis pas là pour faire le café. Viens, on échange nos salaires. Celle-là, c'est celle de Laurence, une assistante à mi-temps dans un collège. Elle a connu concrètement les inégalités entre les hommes et les femmes.
J'ai bien vu que le déroulement de carrière, dès lors que j'avais mes enfants, allait beaucoup moins vite. Même si on a tendance à penser que la fonction publique est exemplaire de ce point de vue, ben non.
Et aujourd'hui, cette terrible impression que rien ne change est toujours là, hein, avec une crise du Covid qui est en plus venue freiner cette lente baisse des inégalités salariales entre les hommes et les femmes.
Bien, merci pour ce récit et cette histoire. Merci Jean-Jacques Herry.
À très bientôt et bonne soirée.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h56. Dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Et puis le foot, Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut Julien.
Pour Europe 1 Football Club, évidemment, comme tous
soir,
les soirs.
Pendant un mois, jusqu'à 23h30, avec le match du jour, c'est Espagne-Suède, le match de 21h, mais surtout des débats sur l'équipe de France. Allemagne-France, c'est demain. Et notre invité exceptionnel ce soir, c'est Patrick Bruel, grand expert de football. A tout de suite.
A tout de suite Lionel, on sera évidemment au rendez-vous. Allez, l'info dans quelques secondes, Julien Pierce, et nous on se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Merci de votre fidélité.